Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, Enoch.
Je vous propose que nous ouvrions notre Bible. Nous allons faire une méditation. Alors, on commence par le premier livre qui s'appelle le livre de la Genèse et on va aller jusqu'à l'Apocalypse, d'accord? Vous avez du temps un peu? Ça vous va? Ouais, c'est pas une grosse affaire. Allez, non, je commence par la Genèse, mais on n'ira pas jusqu'à l'Apocalypse. Je vous rassure, Alors, on va lire au chapitre 5. Vous savez que la Genèse, comme son nom l'indique, c'est le livre des origines. Et c'est intéressant, quelquefois, de connaître les origines de la vie. Alors, vous savez que les hommes, depuis les temps immémoriaux, cherchent à percer les mystères. Mais le Seigneur, nous a fait la grâce et le privilège, en lisant sa parole, de comprendre certaines choses. Et pour notre vie, alors, on va lire ce passage, donc, dans Genèse, chapitre 5, et au verset 1er, on va, donc, on va lire le chapitre entier, c'est quand même moins que la Bible, vous avez remarqué, Alors, on va lire ça, et puis, vous allez voir, il y a des répétitions, mais elles sont voulues, les répétitions, et il y a des choses étonnantes, Alors, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalahel. Kenan vécut après la naissance de Mahalahel 840 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalahel engendra, âgé de 65 ans, engendra Jared. Mahalahel vécut après la naissance de Jared 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalahel furent de 895 ans, puis il mourut. Jared, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jared vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Methusalem, si vous aimez mieux, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methusalem vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methusalem furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra des fils, et il lui donna le nom de Noé. en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Les mecs vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra les fils et les filles. Tous les jours de les mecs furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Et il y a de quoi vous donner le tournis. Ça vous fait sourire? Moi, j'ai compris. Je voudrais quand même vous confier un secret. On entend toujours des problèmes de caisse de retraite et qu'on ne va pas arriver à payer. Mais j'ai compris maintenant. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des problèmes de trésorerie. Non, mais c'est vrai, hein. Parce qu'avec une longévité pareille, c'est pas possible. Alors, je voudrais vous parler d'un jeune homme, oui, qui avait 365 ans. C'est déjà, il était encore plus frais que les autres, hein. Quand on voit la vie de ses prédécesseurs ou de ses successeurs, on s'aperçoit. Alors, on va tâcher de voir et de sortir quand même quelque chose de ce texte, parce que quand on le lit, c'est une répétition, on se dit, mais c'est pas possible une chose pareille. Alors, on a appelé ça, ce chapitre, la généalogie des patriarches. Ouais. Parce que cela met en évidence, naturellement, l'histoire de Dieu dans l'histoire des hommes, c'est-à-dire notre histoire à nous. Et c'est vrai que déjà, nous, quand on atteint 80 ans, 85 ans, 90 ans, pour les plus robustes, hein, nous dit Moïse, hein, dans le psaume 90, hein, alors on se dit, c'est vraiment des gens qui ont une longue vie, naturellement. Mais alors, quand on compare avec cela, on se dit, alors c'est rien du tout, hein, c'est rien du tout, naturellement. Et c'est une généalogie qui est pleine de mystères, où, finalement, le temps, ou les temps, se perdent dans l'immémorial. On se dit, il n'y a plus à compter à ce moment-là, parce que ça nous dépasse, et c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est vrai que ces hommes-là avaient quand même une longévité époustouflante. Vous vous rendez compte, 900 ans, qu'est-ce que l'on peut faire pendant 900 ans? Hein? Ça nous renverrait, nous, aujourd'hui, eh bien, à l'an 1000. À l'an 1000, c'était finalement avant le Moyen-Âge. Hein? C'était, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les rois de France qui régnaient à l'époque, mais après Charlemagne, vous voyez? Vous ne l'avez pas connu? Non, bon. Enfin, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça remonte quand même à pas mal de temps. Par contre, il y a un personnage qui se détache de la liste. Il s'appelle Enoch. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que nous allons nous pencher un peu sur sa vie. Et c'est lui qui a eu la vie la plus courte. Mais je dirais que c'est lui qui a eu la vie la plus longue. Vous avez compris pourquoi. Eh oui, il a vécu à 365 ans, ça représente quand même. Et son nom, Enoch, ça veut dire initié. Ça veut dire, en quelque sorte, enseignement, ça veut dire docteur, mais pas docteur en médecine. Docteur en connaissance. Il savait des choses que les autres ne savaient pas. Et il porte bien son nom parce que aujourd'hui, on pourrait dire, si nous le reportons dans notre contexte évangélique, on pourrait dire, eh bien, c'était un disciple, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné. C'est quelqu'un qui sait. Alors, on pourrait le traduire quelqu'un qui connaît. Enoch, ça veut dire quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait. Mais il connaissait qui? Et il connaissait quoi? Parce que c'est un petit peu les questions sur lesquelles, eh bien, nous pouvons, réfléchir. Où vivait-il? Bon, on sait que c'était dans une région qui devait être pas loin de, hein, du jardin d'Éden, mais qui avait été fermée. Hein. Je crois que c'était terminé de ce côté-là. Son temps, on va en parler. Sa race, ah oui, c'était la race des hommes, hein. Puisque vous avez vu avec moi, il nous est dit que l'homme crée l'homme et la femme, il les bénit, et les appela du nom d'homme. Ouais, homme, ish en hébreu. Et la femme, c'est Isha, c'est beau, hein. Ouais, Isha, c'est beau, hein. Et Ève, si vous aimez mieux, hein, femme. Alors, on s'aperçoit que il y a tout un contexte qui est tellement éloigné de nous, mais pourtant nous sommes de cette race-là. La race adamique, alors avec, naturellement, tout ce que cela peut comporter, il y a bien des choses dont on pourrait se passer. Hein. Si aujourd'hui on pouvait dire à Adam, bah, tu refais pas la même chose, hein, parce que le monde, on porte les conséquences, hein, aujourd'hui, naturellement. Et pourtant, il était prévenu. Alors, on sait vraiment peu de choses. À travers cette période perdue de l'histoire, tout au plus ce que la Bible nous révèle. Et on va pas aller plus loin que ce que la Bible nous révèle, parce que on va pas extrapoler, c'est pas la peine de surfer sur des hypothèses, toutes sortes de choses, mais on va s'en tenir à cela, et vous allez voir que, eh bien, ne serait-ce que déjà dans la méditation, on apprend déjà pas mal de choses. Et là, nous avons naturellement une grande et magnifique leçon de fidélité. Fidélité de foi, de suivi, finalement, eh bien, d'attachement, on peut dire. Une chose qui est sûre, c'est qu'Enoch vivait dans un temps, d'abord, au tout premier jour de l'humanité. Je suppose que l'homme déjà avait, malgré la chute, des capacités, des possibilités. Parce qu'il venait juste de sortir des mains créatrices de son Dieu, de son Créateur. Alors, c'est vrai que il y avait probablement des caractéristiques que nous avons perdues aujourd'hui, ne serait-ce que déjà dans la longueur de la vie. Hein, on a, c'était raccourci, mais peut-être que c'est pas plus mal. Hein. C'était des temps dans lesquels vivaient ces patriarches, et Enoch en particulier, ce que j'appellerais des temps de catastrophe et de fracas de la nature. Les choses, certainement, étaient en, non pas en formation, parce que la formation était déjà faite, mais là, c'était certainement, eh bien, des temps assez redoutables. J'appellerais des temps de férocité aussi. Vous savez, la férocité, elle existe encore aujourd'hui. Hein. Quand on voit les guerres, quand on voit le comportement des hommes, quand on voit la violence même dans nos villes et dans nos rues. Hein, hier soir, on a eu un tintamarre jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Moi, je vivais à la campagne avant. Je suis revenu à Saint-Nazaire et là, il y a du bruit. Hein. Mais bon, c'est et la police est venue, etc., etc. Donc, des temps de, où les gens ne peuvent pas se tenir tranquilles. Il faut qu'ils enquiquinent les autres. Il faut qu'ils cassent. Il faut qu'ils détruisent. Donc, c'était ça aussi, hein, du temps d'Enoch, des temps de férocité et puis des temps de corruption. À tel point, et vous connaissez naturellement ce passage, à tel point qu'il nous est dit qu'au chapitre 6, tout de suite le chapitre après, parce que c'est la suite naturellement, il nous est dit que l'Éternel vit la méchanceté des hommes qui étaient grandes sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Imaginez-vous ? Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Hein. Heureusement qu'il y a encore de l'ordre, des services de police, des services de maintien de l'ordre, parce que je peux vous dire que ça serait l'anarchie complète, hein, parce que quand on laisse les gens la bride sur le cou, ils font n'importe quoi, hein, ça c'est clair. Hein. Ils font n'importe quoi. Alors, nous voyons que c'était vraiment des temps de corruption, hein, le passage nous le dit. Et puis, c'était des temps même qui amenèrent Dieu, c'est-à-dire le Créateur de l'humanité, à se repentir d'avoir créé l'homme, et temps qui finalement occurrent les catastrophes qui va venir d'ici quelque temps, ce qu'on appelle le déluge. Écoutez. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et pourtant, quand Dieu a regardé sa création, il a vu que tout était très bon. Avant la chute, tout était très bon. Et je crois que c'est terrible de constater cela. Cette repentance de Dieu, de dire j'ai créé l'homme et c'était pour la vie, c'était pas pour la mort. Mais les hommes ont choisi la mort, ils ont choisi le mal, ils ont choisi le péché, ils ont choisi la destruction, ils ont choisi finalement de suivre l'abominable, l'ennemi, l'adversaire, Satan, le diable. Mais nous avons un rayon lumineux qui nous apparaît à travers ce tableau sombre, hein, en arrière-plan. Il nous est dit que Enoch marcha avec Dieu. Et ça, c'est réjouissant. C'est réjouissant parce que parmi tous ces hommes, avant et après, eh bien, c'est terrible ce qu'ils ne soient pas. On remarque que ce personnage sort du rang par un fait qui nous semblerait tellement anodin. Il marchait. Ben, Dieu nous a fait bon marché. C'est vrai, il nous a donné des jambes. Alors, on s'en sert tous les jours. Et simplement comme cela, ça nous a dit, il marchait avec Dieu. Mais il y a un autre sens à tout cela. Parce que ce n'est pas le fait de pouvoir nous tenir debout. Hein. Nous sommes des bipèdes, je tiens à le rappeler. Mais nous avons des capacités de non seulement de marcher, mais de courir. Hein. Puis de faire quelquefois des choses formidables avec nos pieds. Hein. Je veux dire que c'est très utile. Et c'est ce fait-là qui nous est rapporté. On pourrait passer en lisant, en disant, bah oui, il marchait comme tous les hommes. Mais attendez, il ne marchait pas comme tous les hommes. Et aujourd'hui, dans notre temps, il y en a qui marchent différemment que tous les hommes. Je pense que quand on est chrétien, on ne marche pas comme tous les hommes. On a certainement une autre conception. Alors, rien de plus naturel que de marcher, mais ce qui faisait la différence, c'est qu'ils ne marchaient pas dans la même direction des autres. Ouais, c'est ça la différence. Ils marchaient, mais pas dans le même sens. Et quand on ne marche pas dans le même sens, on a des problèmes. Vous êtes quand vous sortez un petit peu de l'ordinaire, que vous vous marginalisez, non pas parce qu'il faut se marginaliser, mais tout simplement parce qu'on sort du conformisme, parce que finalement nous ne sommes pas des moutons de Panurge, et que là on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui se fait, tout ce qui se dit et tout ce qui s'entreprend, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, il nous est simplement rappelé qu'Enoch marchait, et il marchait après qui ? Il marchait après quoi ? Et je dirais surtout, après qui ? Simplement, pour nous dire à la différence des autres, et c'est ce qui explique pourquoi il marchait, c'est qu'il n'avait pas perdu, lui, les traces de Dieu. Ouais. Il n'avait pas perdu les traces de Dieu, parce que Dieu avait laissé des traces. Quand on voit ce génie créateur, cette création universelle dans sa bonté, dans sa splendeur, dans son immensité, dans son éternité, Dieu a laissé des traces. Et il les a laissées non seulement dans notre environnement, mais il les a laissées aussi en nous-mêmes, ce qui fera dire à David, alors surtout le prendre avec modération, ce que dit David, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous savez que nous sommes beaux ? Les uns répondent, les autres préfèrent. Mais oui, parce que nous sommes des créatures de Dieu. On nous a dit qu'on descendait de l'arbre et que le singe descendait aussi. Voilà, exactement. Non, mais écoutez, la parole, nous la croyons et nous la saisissons par la foi. Voilà. Et il y a une beauté, quelque part, malgré finalement tout ce qui a été fait dans la responsabilité que l'homme a pris. De se séparer de sa racine initiale, de son créateur. Dieu a fait les choses belles. Et il nous a dit aussi dans l'Ecclésiaste qu'il a fait les choses belles en son temps. Ouais. Et je crois que Enoch se caractérisait parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il savait que Dieu avait laissé des traces. Et il cherchait ces traces. Il cherchait l'empreinte des pas de Dieu dans sa vie. Et dans un temps où tout était là pour couvrir les traces de Dieu, par du sang, par de la férocité, par de la violence, par de la brutalité, par de l'absurdité, par le péché, par le mal, par tout ce que vous voulez. Mais il ne voyait peut-être pas comme les autres voyaient. Dieu lui avait donné des yeux. Et on va voir pourquoi. Alors, cela le classe dans ce type d'homme qui, dans l'histoire humaine, de loin en loin, jalonne le chemin qui mène jusqu'à l'éternité. Vous avez remarqué que dans la Bible, on souhaiterait tellement qu'il y ait des récits positifs. Qu'il y ait que des gens qui, eh bien là, ont fait des choses extraordinaires avec Dieu. Mais quand vous lisez seulement l'histoire d'Israël et les rois d'Israël, ben vous apercevez qu'il y en a un de bon, puis il y en a 10 de mauvais. Et puis il y en a encore un autre qui arrive, il est bien, il sert de Seigneur, il plaît à Dieu, lui rend témoignage. Et puis après, vous en avez 20 autres qui sont complètement affreux. Eh bien, Enoch, c'est ça, en quelque sorte. Et dans l'histoire de la Bible, c'est ce que nous trouvons. C'est pas la majorité qui marche avec Dieu. Tout petit contingent. Et de loin en loin, je dis bien, il jalonne le chemin qui indique l'éternité. Parce que c'est ça, les traces de Dieu. On va dans un sens et on sait où on va. Et Jésus nous en parle d'ailleurs d'une manière très, très forte. Témoin de la vérité, Enoch, dans un monde enténébré. Il était en quelque sorte une sorte de lumignon fumant. Vous savez, vous connaissez, Matthieu chapitre 12, où Jésus nous parle du lumignon qui fume. Eh oui. Et une lumière, elle n'a jamais autant eu d'éclat que quand elle est dans les ténèbres. C'est curieux, mais c'est comme ça. Les étoiles, elles brillent quand le ciel est bien noir. Autrement, quand le ciel est clair, ben, on ne les voit pas, les étoiles. Alors ce sont ces lumignons, ce sont ces jalons, ce sont en quelque sorte ces hommes qui apparaissent comme ça. Ça brille un temps, naturellement. Pour dire, et pour nous dire encore, que dans ce temps-là, Eh bien, la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Vous savez, comme du temps de Samuel, le petit Samuel. Il nous a dit que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Oh, ça fumait, c'est tout. Et je crois que c'est toujours la même histoire, c'est notre histoire. C'est que, dans notre monde d'aujourd'hui, malgré toute la sophistication, malgré l'intelligence des hommes, malgré tout ce que l'on peut dire, la technologie, eh bien, on s'aperçoit que c'est encore un petit lumignon qui fume et il ne s'éteint pas. Parce qu'il y a des Enoch, parce qu'il y a des hommes comme ça qui apparaissent à un moment ou un autre de l'histoire et ils sont là pour tenir finalement la lampe de Dieu. Elle n'était pas totalement éteinte et pourtant, elle a failli s'éteindre avec la chute. Un souffle peut encore la rallumer et Dieu se sert de ce souffle et d'un souffle humain, d'un homme. Le sens de sa marche était marqué par quelque chose parce que je crois qu'Enoch, dans cette recherche des traces de Dieu, et il les suivait, c'est qu'il allait vers l'approfondissement de sa vie spirituelle alors que tous les autres allaient vers l'extérieur de leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le physique qui comptait, il n'y avait que l'expression de la force, il n'y avait que ce qui, eh bien, ce qui compte encore de notre jour. Vous avez remarqué la place que les hommes font à l'extérieur. Les hommes ne savent même pas qu'ils ont une âme. Ils n'ont qu'un corps. Avec ce corps, ils en font n'importe quoi. Ils font souffrir aussi les autres. Mais nous nous apercevons que lui, il avait compris que la vraie vie, elle n'était pas à l'extérieur, elle était à l'intérieur. Comme tout à chacun, vous savez que c'est formidable que le Seigneur nous a donné de regarder à lui. Quand on a regardé à lui, on s'est aperçu qu'on avait une âme, qu'on avait un esprit, et que il voulait souffler dessus pour nous donner la vraie vie. Parce que la vraie beauté, on peut avoir 950 ans, hein. On commence à avoir des rides à cet âge-là, comprenez ? Même avant, hein. Mais la vraie beauté, elle est à l'intérieur. Le véritable trésor, il est à l'intérieur. Et lui, eh bien, avait regardé vers l'intérieur. Alors, quand on regarde dans ce sens, et quand on a cette vision, qu'est-ce que l'on fait ? On découvre Dieu. Et je crois que plus il allait, eh bien, plus il était dans cette contemplation de son Dieu. Il découvre Dieu. Et non seulement il le découvre, mais il le suit. Et c'est formidable. Parce qu'il y a bien des gens qui découvrent Dieu et puis qui le laissent tomber deux jours après. Il le suit. Et il a été, je peux peut-être l'affirmer sans trop vouloir, sans trop me tromper, il a été un des premiers à entendre « Viens et suis-moi ». Vous savez que ça revient très souvent dans l'Évangile. Ouais. Vous l'avez entendu cet appel « Viens et suis-moi ». Et nous avons souscrit, nous avons répondu. Et le Seigneur nous a confondus. Il nous a pardonnés. Il nous a transformés, il nous a donné une nouvelle naissance, une vie nouvelle. « Viens et suis-moi ». C'est donc ainsi qu'Enoch va rompre avec la lignée des rebelles à Dieu. Vous savez qu'il y a eu des hommes comme ça, hein ? Ils ont dit résolument, moi je crois en Dieu. Dans un monde où le leitmotiv c'était Dieu n'existe pas, il est mort. Alors il a été le premier, certainement parmi les premiers dans cette lignée des rebelles à Dieu à dire non. Parce que les autres... Et pourtant, ce sont des hommes de sa famille, ce sont ses ascendants ou ses descendants. Eux, les autres, vont poursuivre leur route vers le déluge. Et ils ne savent pas encore. Enfin, ils ne veulent pas le croire. C'est surtout ça. C'est comme aujourd'hui, nous replaçons les choses dans notre temps. Eh bien, nous n'allons pas vers le déluge, mais nous allons vers le retour de Jésus-Christ qui va amener, eh bien là, des règlements de compte, hein, où le Seigneur va remettre, excusez-moi l'expression, mais les pendules à l'heure. Dans un monde de folie. Dans un monde terrible. Alors ils ne le savent pas, ils s'ensuivent, mais lui il prend le chemin inverse. Et il va passer le relais, puisqu'on a parlé d'un lumignon, il va passer le relais deux générations plus tard à un de ses descendants fameux que les eaux du jugement n'éteindront pas. Il s'appelle Noé, et Noé ça veut dire repos. Oui, il s'est reposé dans un bateau. Pourquoi pas ? Ouais, dans son arche. Hein. Et Noé a été en quelque sorte le sauveur de son temps. Alors, c'était pas le grand et divin sauveur, mais il était sauveur de son temps, par la volonté de Dieu. C'est lui qui va prendre le relais. Et la flamme va se rallumer pour une nouvelle humanité, ce qu'on appelle l'humanité post-diluvienne, après le déluge. les uns et les autres, nous sommes aussi, nous sommes après. Ça, c'était avant l'histoire. L'histoire d'Enoch, c'était avant une nouvelle humanité. Mais on va s'apercevoir qu'elle n'est pas meilleure que la précédente. Parce que le Seigneur peut faire tomber la pluie, il peut envoyer le feu, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est vrai, et dans sa capacité infinie, pour changer la nature de l'homme, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça se passera d'une manière tellement étonnante, à cause d'une croix, vous vous rendez compte, qui a été dressée. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça paraît dérisoire, ça paraît complètement... Personne n'aurait, aucun écrivain, aucun romancier n'aurait imaginé une chose pareille, mais Dieu l'a imaginé. Que la seule transformation de l'humanité, eh bien, ça passait par la croix, que quelqu'un allait finalement mourir à la place des autres. Parce que on dit très bien, il est coupable, ben donc il va payer. Mais là, c'est pas ça ce qui s'est passé, c'est que nous sommes coupables, mais nous n'avons pas payé. Quelqu'un a payé à notre place. Il s'est fait le substitut. Il a pris notre place. Alors la promesse est donc vraie pour ceux qui font confiance. Écoutez, je vais citer quelques passages, on va étayer cela avec quelques... Regardez simplement dans le psaume 32 et verset 6, il est dit ceci, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie, moi je pense à Enoch en lisant ça, « qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Et c'est vrai? Parce que ça, c'était la période, finalement, de ce jugement par l'eau, en quelque sorte. Parce qu'Enoch a marché sa vie durant, toute sa vie, avec Dieu. Alors, à ce moment-là, son Dieu, parce que c'est vraiment son Dieu, c'est pas le Dieu de ses pères, comme quelquefois on a entendu, mais son Dieu lui accorde une récompense d'exception, à savoir... Le privilège de celui qui porte la lumière dans l'obscurité de ce monde, c'est vrai pour Enoch, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai pour l'Église qui doit briller dans ce monde de ténèbres. Son Dieu fait qu'il ne passe pas par la nuit du sépulcre. Ouais. La mort est toujours imaginée comme l'obscurité, comme les ténèbres, qui nous enferment, qui nous enveloppent et qui nous font disparaître. Mais Dieu, à ce moment-là, parce qu'il a été la lumière dans son monde, dans ce monde, dans son temps, dans sa société, dans sa civilisation, alors Dieu va ne pas le faire passer par la nuit du sépulcre. Et il ne mourra pas. Alors ça, c'est quelque chose. On s'attend tous à mourir. Vous savez, dans les statistiques, c'est les seules statistiques qui ont raison à 100%. Eh oui, 100%. Bah oui, humainement parlant, dans notre condition adamique, il n'y a rien à faire, la Bible le dit. Ça c'est. Et dans cette situation, eh bien on va s'apercevoir, il ne sera pas le seul, il y aura des exceptions, mais il ne mourra pas. Alors on va expliquer pourquoi. Enoch marcha avec Dieu, puis on ne le vit plus. C'est quand même une façon très élégante de dire les choses, on ne le vit plus parce que, et on a l'explication, parce que Dieu le prit. Vous trouvez pas que c'est beau? C'est magnifique. C'est extraordinaire. Dans l'annonce nécrologique, je parle pour moi, on pourrait mettre ça dans le journal, qu'est-ce que vous voulez? Non mais pourquoi pas? Je vais vous donner des idées. Dans la traduction du rabbinat français, traduction du rabbin Kahn. Il est dit ceci, écoutez bien, il y a des petites nuances qui sont très intéressantes. Enoch se conduisit selon Dieu. Marchez. Il se conduisit selon Dieu. Il se conduisait selon Dieu lorsqu'il disparut, Dieu l'ayant retiré du monde. C'est bien de faire des comparaisons quand on lit la Bible, hein. Dans la traduction Tob, universelle, il est dit ceci, « Enoch est vécu en communion avec Dieu. » Un approfondissement, un enrichissement. Il marcha, il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. C'est formidable. Merci Seigneur, de ce que... Vraiment, il y a des hommes qui ont traduit, et qui, ça c'est des... Ouais, je pense que c'est un enrichissement dans tout ça. Mais ça veut dire la même chose. Second le traduit comme nous l'avons lu, marcher, se conduire et communier. Et disparaître. Mais est-ce que vous croyez qu'on disparaît? savez, quand vous êtes sur le port à Saint-Nazaire, enfin, sur la jetée, là, un petit peu plus loin, vous avez un bateau énorme qui passe devant vous. Vous l'avez devant les yeux, il est énorme, il prend tout le paysage, vous ne voyez plus rien derrière, parce que c'est comme ça. Et puis si vous le contemplez, si vous le regardez, au bout de... Voilà, faut attendre quand même un petit peu, même s'il navigue assez rapidement. Vous allez voir, à un moment donné, il va diminuer, et puis à un moment donné, vous n'allez plus le voir. Mais le bateau, il est toujours là, il existe toujours. Et c'est que vous ne le voyez plus. Eh oui. Parce que si vous essayez de le rejoindre, vous verrez qu'il est quand même là, le bateau. Avec son chargement, avec son capitaine, avec son équipage. Mais il est toujours là. Mais vous ne le voyez plus. Et moi, j'aime bien. Enoch marcha. Enoch se conduisait et il communiait et il a disparu. Mais il était vivant. Il était toujours là, Enoch. Alors, deux vérités apparaissent. La première, pour autant que les traces de Dieu, nous avons parlé tout à l'heure, créateur et sauveur, soient profondément enfouies dans l'âme humaine. Parce que ce n'est pas seulement les traces de la création que nous pouvons contempler et admirer, mais ce sont des traces aussi à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs. L'empreinte divine est en tout homme. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chacun. Alors, si cet homme, pressant, se sent interpellé à un moment ou à un autre, parce qu'il est intelligent, l'homme, quand même. C'est quand il ne veut pas réfléchir qu'il est sot. Mais surtout de ce domaine-là. Alors, s'il la cherche, je dis bien et j'affirme avec l'histoire d'Enoch, c'est que cet homme-là, même s'il y a des traces qui sont très enfouies, il passera de la mort à la vie. Ouais, il passera de la mort à la vie. Et ça, c'est tout le message de l'Évangile, le message merveilleux de Jésus. Disparaître pour renaître. Ouais. Et mes frères et sœurs, moi je crois que nous pouvons nous réjouir ce matin. C'est qu'à un moment ou à un autre, si le Seigneur n'est pas revenu et qu'il va nous enlever, qu'il nous enlèvera, hein, si les choses se passent ainsi. Mais en tous les cas, nous avons cette espérance. Comme Paul dit, mais mourir est un gain. Disparaître, nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance et qui se lamentent. Mais nous avons l'espérance parce qu'elle est nourrie de notre foi, dans la connaissance que Dieu nous a donnée. Et si nous disparaissons, mais c'est pour renaître. Et ça, c'est formidable parce que c'est ça ce qui doit nous tenir à cœur et de pouvoir chanter, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir le glorifier en disant « Mais Seigneur, tu m'as donné la vie. » Et cette vie, peut-être que nous allons la quitter avec le déchirement nécessaire parce que nous sommes des hommes et il y a des affections, il y a des émotions, il y a toutes sortes de choses. Il y a ceux qui sont nos bien-aimés. Mais à côté de ça, nous savons que nous allons vers celui qui est la vie. Nous n'allons pas vers la mort, nous allons vers la vie. Parce que mourir pour un croyant, eh bien, c'est tout simplement renaître. La deuxième vérité, c'est que Dieu attire et il prend à lui ceux qui le cherchent et il en fait ses compagnons. Enoch marcha avec Dieu. Dieu était son ami. L'amitié de Dieu. On a été quelquefois trahis par des amis qui nous ont tourné le dos, qui nous avaient promis l'amitié, et puis finalement on s'est aperçu que ce n'était pas ça. Mais l'amitié de Dieu. Vous avez remarqué que les paroles sont touchantes quand on parle d'Abraham ou quand on parle de David. Il nous est dit qu'il était selon le cœur de Dieu, il était l'ami de Dieu. Alors, il fait de nous ses compagnons, ses amis, ses enfants. Et on est un petit peu à l'image du prodigue qui retourne vers son père. On retrouve les traces de la maison. On frappe à la porte. Et au lieu d'avoir une volée de bois vert et de réprimande, le Père nous dit, mais viens, je t'attendais, je t'attends. Tu es là, comme chez toi, malgré tout ce que tu as pu faire, parce que mon pardon est au-dessus de tout. Parce que je vois que tu viens et tu reviens dans la repentance, tu prends conscience. Malgré les souillures et malgré le péché, malgré tout cela, les traces qu'il y avait dans ton cœur et dans ton âme et dans ta conscience sont restées. Et tu es revenu sur ces traces. Et tu as retrouvé le chemin de la maison. On peut marcher religieusement. On peut marcher dévotement, excusez-moi les mots, on peut marcher craintivement, on peut marcher superstitieusement, on peut marcher de cette manière avec Dieu. Il y a des gens qui pensent que religieusement et puis tout cela, etc. On peut marcher de cette manière avec Dieu, mais permettez-moi de dire que cela est sans valeur. parce qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose qui a plus de sens. Parce que si l'amour n'en est pas le mobile de notre marche, eh bien ça ne sert à rien. Et vous savez, le Seigneur, hein, il nous a vaincus. On était quelquefois, excusez-moi l'expression, on était peut-être quelquefois, parfois des durs à cuire, hein, avant de nous convertir. Mais le Seigneur nous a vaincus, non pas parce qu'il nous a écrasés, mais parce qu'il nous a aimés. Et on a été vaincus par son amour. Et on a fondu à ce moment-là. Ouais. Et on ne vint pas par la force. On vint par la tendresse et l'amour. Et c'est comme ça qu'on a fléchi les genoux devant Dieu. Alors, l'amour, c'est tout. Enoch, je dirais, si vous permettez que je paraphrase, je dirais que Enoch a marché avec Dieu, mais Enoch a aimé Dieu pour marcher avec lui. Et c'est ce qui donne la force de la marche. Il ne lui fausse pas compagnie quand le chemin est étroit et quand le chemin est obscur, en disant « Seigneur, c'est trop difficile ce que tu me demandes, tu me demandes ceci et cela ». Et il a dû en voir Enoch. Hein. Le temps n'était pas forcément, cette époque n'était pas propice à faire des sourires et autre chose. Hein. Le secret de sa marche était le don de son cœur. Et c'est bien ce que le Seigneur nous demande en premier. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur », c'est-à-dire les sources de son souffle et les sources de sa vie, les sources de notre vie que Dieu réclame. Dans le psaume 87, il est dit ceci, c'est les fils de Coré qui écrivent cela, psaume 87, ils diront « Mais toutes nos sources sont en toi, Seigneur ». Et une source, c'est la vie. Sans source, eh bien, c'est la solitude, c'est le désert. « Toutes mes sources sont en toi, marcher avec Dieu ». C'est se conduire, c'est communier, avons-nous dit, avec et dans la vérité. Marcher avec Dieu, c'est se conduire et communier dans et avec l'amour, donc la charité. C'est marcher et se conduire dans la lumière, avec et dans l'humilité, avec et dans la foi, avec et dans l'honnêteté, selon l'esprit de celui que l'on suit. On a choisi de suivre Jésus, alors c'est lui qui va nous éclairer, c'est lui qui va nous motiver, c'est lui qui va nous attirer. Et plus nous allons marcher avec lui, plus ses traces et ses empreintes sur notre route seront marquées. Et cela dans une reconnaissance permanente. Permanente. Et je dis que c'est un bonheur de marcher dans sa présence. Surtout qu'il nous a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je voudrais vous parler, vous avez encore un peu de temps, ça va ? Je voudrais vous parler du mystère de l'enlèvement. Ah, ben oui, on en a parlé, et Dieu l'a pris. Vous n'êtes pas posé la question, est-ce qu'il est venu ? Ah, oui. Eh oui. Alors, on va parler du mystère de cet enlèvement. Enoch était prophète en son temps, vous le saviez ? Eh bien, on va se le rappeler. Prenez donc le livre Livre de Jude. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de chapitres dans le livre de Jude. Il y a un Jude, deux Jude, trois Jude. Non ? C'est un des livres les plus courts de la Bible avec très très peu de versets. Il y en a 25 versets, ça va ? On devrait pouvoir s'y retrouver. Au chapitre... verset 15. Écoutez bien. On va prendre le verset 14 quand même. « C'est ainsi... pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis de toutes et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Contre lui des pécheurs impies. Ouais. Ça ne devait pas être triste hein, quand même du temps de Enoch aussi, hein. Parce qu'il a dû monter au créneau plus d'une fois en disant « Mais attendez, hein ?» Mais il avait un autre sens que Lot, parce que Lot lui disait aussi à Sodome et Gomorre, « Ah, dites-donc, vous faites des choses qui ne sont pas bien. Hein. » Mais là, il y était, hein, Enoch. Hein. On peut dire que... Et je crois que... Je ne sais pas s'il a été écouté. Visiblement, le déluge a eu lieu quand même. Mais je dis bien qu'Enoch était prophète en son temps. Cela nous est rapporté. Il n'y a pas grand-chose hein, sur lui. Hein. Parce que c'était un homme... Dans son acte ou dans sa vocation prophétique, c'était un homme qui avait été appelé par Dieu à avertir et à offrir la grâce avant le jugement. Et l'Église aujourd'hui a pour vocation l'Église dans le monde dans lequel nous sommes, avec le message qui est celui de l'Évangile, doit avertir mais pour offrir la grâce de Dieu. Tant que le jugement n'est pas encore là. Mais il est aussi, non seulement un prophète d'avertissement, mais il est aussi un prophète d'espérance pour nous. Là, nous le voyons dans ce phénomène qui n'est pas encore accompli, mais qui va s'accomplir, que nous attendons et que de la Bible nous parle, c'est la parousie. Vous avez entendu parler de ce mot-là ? Non ? Oh, c'est un terme théologique, mais c'est le retour de Jésus. Enfin, une des phases du retour de Jésus. Où il viendra chercher son Église, il viendra juger les nations, mais il vient aussi chercher son Église. Vous avez lu ça dans la Bible, naturellement. Ça s'appelle la parousie, tout simplement. Et l'Église, il nous est dit, sommairement, mais suffisamment pour nous donner cette espérance, que l'Église sera enlevée sans passer par la mort. Eh oui, ben oui, c'est écrit ça. Je viendrai me voir, on va reprendre des leçons. Hein. Voilà. Et Enoch est le symbole, en quelque sorte, de cela. Hein. C'est le symbole. Et puis, je voudrais faire une dernière remarque avant de terminer. Dernière remarque. C'est que nous constatons dans la lecture que nous avons faite, et je l'ai fait sciemment, hein, j'ai insisté. Parce que c'est quand même assez curieux quand on voit là tous ces chiffres, ces fils et ces filles qui apparaissent. Et puis il y a quelque chose quand même qui n'a certainement pas échappé à votre attention. C'est qu'avec une certaine monotonie impressionnante, 6 fois, je dis bien 6 fois avant Enoch, et encore 2 fois après lui, revient ce funeste refrain, puis il mourut. Vous avez compté ? Bon, parce que jusqu'ici, on y est tous passés. Hein. Enfin, pas tous, mais ils sont tous passés. Voilà, puis il mourut. Seul Enoch est jugé digne d'échapper à la mort. Parce que Paul établit la doctrine quand il dit, de la condamnation mais aussi du salut, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est un salaire. Vous savez ce que c'est qu'un salaire ? Ah, vous êtes à la retraite, vous ne touchez plus de salaire maintenant, c'est fini. Vous touchez une pension. Hmm ? C'est ça, hein ? Voilà. Mais que celui qui travaille touche un salaire. Il a tout simplement la récompense de ses mérites, de ce qu'il a accompli pendant le mois ou la semaine, enfin peu importe, c'est pas à prendre en considération, mais il reçoit l'insigne privilège de passer, d'échapper à la mort, et grâce à une chose, grâce à sa foi. Et encore, parce que il est quand même présent dans d'autres textes, Enoch, on va lire dans Hébreux chapitre 11, et c'est beau. C'est l'apologie des hommes de foi. Et dans Hébreux chapitre 11 au verset 5, écoutez ce qu'il nous est dit, c'est par la foi. Et nous sommes sauvés aujourd'hui par la foi. C'est pas par les œuvres, c'est pas par nos mérites, c'est pas par nos vertus de ceci, qualité ou autre. C'est par la foi que nous sommes sauvés, comme Enoch. Et lui, il l'était avant l'époque de la foi, c'est-à-dire l'ère évangélique, on pourrait dire. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne l'a pas vu. Et il ne parut plus, donc il a disparu. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il n'a pas été kidnappé, hein, c'est pas marqué, hein. Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et il était agréable à Dieu en raison de quoi ? De sa foi. Tout simplement. Avant le temps. Avant les temps qui sont les nôtres. Avant la proclamation de l'Évangile qui est vraiment le couronnement de ce don de Dieu qui est la foi. Alors, aujourd'hui on aurait dit il a été kidnappé, il faut une rançon. Ben oui. Mais vous savez que la rançon, elle était payée pour nous. On n'a rien à faire. On n'a rien à payer, c'est fait aujourd'hui. Et vous le croyez ? Et moi je le crois, parce que je le crois. Parce qu'on me l'a dit, parce que je crois que c'est Dieu qui me l'a dit, et parce que sa parole est la vérité, et je la prends de tout mon cœur, et je sais que je suis sauvé. Et que je n'ai plus rien à payer, maintenant c'est fait. Il était devenu un homme, Enoch, non assujetti à la sentence de mort. Tous les autres, oui, mais lui, non, parce que la mort est inéluctable. Vous avez remarqué, il nous est dit dans Jude qu'il était le septième après Adam. Septième, ce n'est pas le fait du hasard. Vous savez ce que ça veut dire, le chiffre 7 hein, chiffre de la totalité, de la perfection. Bon, ça se concerne un homme, mais il était le septième homme après Adam. Enoch est épargné. Il échappe grâce à sa marche par la foi en Dieu. C'était Pâques avant le temps. Pâques, qu'est-ce que ça veut dire épargné? Passer outre? Eh bien, lui, il est passé outre. Il a été épargné de la mort. C'était déjà la Pâques, en quelque sorte. Pâques sans l'agneau. Pâques sans le sacrifice de Jésus. Mais de loin en loin, de proche en proche, si vous voulez, il y avait des jalons qui étaient déjà posés. C'est formidable, la Bible. Hein, c'est extraordinaire. Hein, et vous savez ce que l'on sait, on ne sait pas grand-chose. Hein, mais quand on arrivera de l'autre côté, on rentrera dans toute la compréhension des mystères et des merveilles de Dieu. Alors ça doit nous exciter. Hein. Ouais. Parce qu'on ne sait pas grand-chose. Et pourtant, déjà, ce que l'on sait, on se dit, mais Seigneur, c'est formidable. Alors, il a été épargné. Et pourquoi? Et je finis. Parce que les fils de Caïn, ses ascendants ou ses descendants, ceux qui sont révoltés contre Dieu, ceux qui sont là, dans l'incrédulité, qui disent des choses injurieuses, comme Jude nous le dit. Hein, voilà. Ces fils de Caïn dépensaient toute leur force et leur intelligence à améliorer un monde maudit. Et vous savez qu'aujourd'hui, les hommes se dépensent, se consument, se font la guerre, sont en train de s'entretuer pour améliorer un monde qui est maudit. Parce que notre monde est maudit. Hein. Il n'y a rien à faire. On ne revient pas là-dessus. Alors, tandis qu'Enoch avait trouvé un monde meilleur, il s'est dit, celui-là, il n'y a rien à en tirer. La chair, la bestialité, la brutalité, la férocité des hommes, il n'y a rien à en tirer. Il avait trouvé un monde meilleur, et ce monde meilleur, c'était de marcher en compagnie de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, marcher en compagnie de Dieu. Marcher sans douter vers l'Éden retrouvé, parce que les traces de Dieu conduisaient justement à retrouver ce paradis perdu que les hommes ont au fond de leur cœur et qu'ils recherchent encore. En vivant dans un monde hostile et saturé de matérialisme, ça ressemble bien au nôtre. Hein. Il n'y a plus qu'une chose qui compte, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Mais nous, c'est pas du tout notre mentalité. Nous pouvons bénir le Seigneur pour ce que nous mangeons et nous mourrons, ça nous le bénissons, mais ça c'est pas le but de notre vie. On n'a pas confondu et on ne confond pas entre les buts et les moyens. Et c'était un monde d'incrédulité. Sa seule sauvegarde à Enoch, ça a été de vivre dans l'intimité de Dieu, ce que nous sommes exhortés à faire les uns et les autres, à marcher, à nous conduire avec, selon Dieu, et de rentrer dans cette relation. Hébreux, chapitre 11, verset 6, c'est la suite que nous avons lue tout à l'heure, parce qu'il était question de cette apologie, enfin, en tous les cas, quand il nous est parlé qu'Enoch, c'est par la foi qu'il était sauvé, mais je voudrais simplement relire la verset qui suit. Or, je lis les deux. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Mais regardez le verset suivant. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est pas pour rien que ce verset a été posé comme ça au milieu de toute cette généalogie, au milieu de cette apologie, après Enoch. Car, or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est la suite immédiate de l'histoire d'Enoch. Et c'est un beau résumé du triomphe de la foi dans son principe. Je lis la traduction de Tob. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire. La traduction, doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Marcher avec. Se conduire selon. Communier dans la présence de notre Dieu. Pour conclure, il y a un appel pour chacun. Dans Michée, on le chante. Chapitre 6, verset 8, traduction aussi moderne. « Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec ton Dieu. Oh, l'humilité. C'est ce qui nous ouvre le porte. L'humilité dans la foi dans l'humilité. Mais c'est ce qui nous ouvre le cœur de Dieu. Pourquoi le monde n'atteint pas, ne retrouve pas les traces? Parce qu'il est plein d'orgueil et de suffisance. Parce que, nous dit Ésaïe, chapitre 40, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est défaillant. Ainsi, l'homme marche et ne se fatigue pas, parce qu'il ne marche pas tout seul, il marche avec Dieu. Pour parvenir à l'exemple d'Enoch, pour parvenir à atteindre et à entrer dans les sanctuaires de Dieu dans le ciel, parce qu'il ne descendait pas, il ne marchait pas avec Dieu en allant vers la terre, il marchait avec Dieu pour aller vers le ciel, avec cette louange qui nous concerne les uns et les autres. Mon frère, ma sœur, il, elle, a marché avec son Dieu fidèlement. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Elle est bonne l'histoire d'Enoch, hein ? Ah oui, alors ça c'est formidable. Allez, on recommence, d'accord ? On recommencera bientôt, vous ne tracassez pas, ça va pas tarder à revenir. Quoi qu'il en soit, que le Seigneur nous bénisse et on bénit le Seigneur. Et on va lui dire tous ensemble, mes Seigneurs, donne-moi autant d'amour nécessaire pour que je puisse marcher jusqu'au bout avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu as jalonné, Seigneur, la vie de l'histoire, la vie des hommes dans l'histoire, à travers des hommes, qu'ils s'appellent Enoch, qu'ils s'appellent d'une manière ou d'une autre. Puis, Seigneur, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, tu nous as rappelé, Seigneur, pour nous-mêmes, que nous sommes aussi dans cette même histoire, dans un autre temps, dans un autre monde, mais toujours avec la même nature de ce monde, toujours le même caractère, toujours le même péché, toujours la même perdition, toujours les mêmes ténèbres, avec, Seigneur, celui qui fait marcher ou danser le monde pour le détruire. Mais nous avons compris, et ça c'est encore une grâce, c'est que nous pouvions avoir une autre vie, qu'il y avait encore un autre chemin. Alors nous te bénissons et nous te remercions, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Tu bénis mes frères et mes sœurs, tu leur fais du bien. Ils ont marché avec toi, ils marcheront encore avec toi, et ils iront jusqu'au bout. C'est notre prière. Louange et gloire à toi, Seigneur. Merci notre Dieu.